Les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Ninon.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire. Je suis effectivement avec Ninon, une artiste maîtresse d'école, ex-maîtresse d'école et militante associative que je vais relater un petit peu. Je vais raconter à quoi elle s'est avouée dans sa vie. Et aussi, je suis accompagné par Boris Pratt, qui anime, entre autres, la place de la Palabre à Nègrepelisse. Et je dis bonjour à tous les deux. Bonjour Ninon, bonjour Boris.
Bonjour.
Bonjour.
Bien, donc depuis longtemps que je voulais t'inviter, Ninon, parce que tu es très connue dans le milieu montalbanais et tarn-et-garonnais, et peut-être plus loin.
Hmm? Oui.
Jusqu'à New York.
On va dire. Oui.
Avec les ondes de CFM, on peut t'écouter partout. Parce que ton actualité citoyenne, et c'est que tu as abandonné l'école, tu veux faire la musique. Et avant, je voudrais quand même retracer un petit peu ton parcours, Ninon. Et étant donné que tout le monde qui te connaît ici dans la région parle de la Ninon résistante, non? La Ninon qui a travaillé 10 ans dans une école, dans l'école rurale, parce que c'était ton choix, la ruralité.
Oui.
Et bon, on t'a vu à toutes les manifestations, mais pas, bien sûr, pas de la droite, hein, surtout des manifestations qui prônent la désobéissance civile. Dans l'éducation nationale. Et entre autres, tu as lutté et tu continues à lutter contre les fichages des enfants, et, entre autres militantisme, syndicalisme. Et tu as démissionné en septembre.
Oui, donc, c'est ça, oui.
Voilà. Donc, on y est dans ton actualité. On va parler de ce que tu fais actuellement, surtout la musique. N'est-ce pas, Ninon?
Oui, de la musique. Enfin, que ça, ou presque, je bricole aussi un petit peu, mais voilà, on va dire en termes d'activité, j'avais plein de projets, et puis ça s'est quand même bien recentré sur la musique, le violon en particulier, toute seule pour travailler, pour progresser, pour me faire plaisir, et puis aussi avec des copains, dans un duo, dans un trio, dans un groupe où on est 4 et 5 bientôt, et puis dans un groupe où on est 8, voilà, donc plein de mesures différentes, par contre toujours en musique plutôt traditionnelle, occitane.
Oui, et quand j'ai eu la chance d'être invité par toi ce week-end qui vient de passer, et j'ai découvert aussi un autre aspect que tu développes, que c'est ton carnet de dessin.
Oui, alors bon, c'est un carnet de dessin, je ne sais pas si vraiment je développe ça. Disons que j'avais besoin d'un carnet pour quand j'avais la nécessité de mettre des... quand je ne peux pas mettre des mots en fait, sur ce que je pense, je fais des lignes, je fais des dessins plutôt abstraits. Ça me pose, c'est un peu comme un yoga, en fait, une respiration.
Et tu fais de l'écriture aussi, mais tu n'as pas voulu le partager parce que c'est pour l'instant très confidentiel, n'est-ce pas, Ninon?
Oui, enfin, pour l'instant, c'est carrément confidentiel, c'est pas une histoire d'instant. Et j'ai deux malheureux destinataires qui reçoivent mes états d'âme par écrit, ils sont formidables et ils reçoivent ça, ils m'en veulent pas. Mais non, je le partage pas, c'est pas des choses à partager, non. Enfin, pas plus largement, quoi.
Bien. Donc, avant de parcourir ton parcours, et je passe le micro à Boris parce qu'il avait une question à te poser. N'est-ce pas, Boris?
Oui, alors peut-être plus sur le volet militante. On avait un tout petit peu évoqué ça avec Rosendo, la première émission que j'avais fait ici, sur cette tension entre profiter du présent et être dans cette joie de vivre de ce qui est, et en même temps garder son indignation et sa révolte. Et Benassayek parle de militant triste pour parler d'un certain militantisme, et je crois qu'on est quelques-uns, et t'en fais partie, qui arrivent à être dans un militantisme joyeux. Et je voulais juste voilà t'entendre parler de ça, de cette tension entre voilà j'aime la vie et en même temps je critique et je me révolte et je manifeste, etc. Comment on tient ces deux bouts? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de gens qui pourraient penser que c'est antinomique.
Ah ouais, ouais, c'est pas une question, c'est super compliqué ça. En fait, c'est pas une question, donc j'ai pas de réponse.
Ton ressenti par rapport à ça.
Il va y avoir des blancs de réflexion. Merci Boris d'être exprimé à mon tour. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait défendre des choses dans la vie en n'ayant pas envie de cette vie-là. En fait, moi, c'est justement parce que j'ai envie de vivre, d'être bien, d'être heureuse, d'être avec des gens qui vont avoir le sourire, qui vont pouvoir profiter de la vie. Et pour cette raison-là, il faut absolument se battre pour qu'elle ressemble à quelque chose d'acceptable. Et la vie, en tout cas, dans la société, quand on est inscrit dans la société, moi, comme j'ai été pendant ces dernières années, même à la campagne, même dans la ruralité, quand même sur un rythme métro-boulot-dodo, on peut pas vivre bien dans ces conditions. Enfin, j'y crois pas. Moi, je m'y suis pas épanouie, en tout cas. J'avais des centres d'intérêt, des choses qui me portaient, qui me permettaient de dépasser ces contraintes-là, qui sont des contraintes fortes, assassines, quoi. Assassines du désir de vivre. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié le début de ma phrase. On réécoutera.
Vas-y, vas-y, c'est très bien.
Mais du coup, effectivement, l'idée d'aimer la vie, et c'est pour ça qu'il faut la défendre, quoi. Bah, par exemple, entre joie et tristesse, on nous dit souvent, là, quand il y a des manifs, on se bat pour des choses très graves, parfois, enfin, tout dépend le bout de la lorgnette qu'on prend. Parfois, c'est très parcellaire, hein, les problèmes qu'on dénonce, mais malgré tout, ce sont des choses importantes. Et puis, on chante, on danse, on rit, on fait de la musique. Et oui, on y met de la joie pour avoir la force aussi d'être debout, de lutter. Déjà la joie d'être ensemble pour l'emporter, pour être dans cette dynamique là. Et par contre, le fait d'être sorti, ça me fait penser à ça, ta question, je pensais à ça pendant que tu parlais, Boris. Le fait de plus être exactement dans le système quand même maintenant depuis 6 mois, je crois, enfin depuis septembre, quoi.
Système éducatif ou des systèmes en général?
Alors du système éducatif, c'est sûr, encore que j'y suis encore comme parent d'élève, c'est une part importante d'appartenance au système éducatif quand même. Mais enfin, d'être plus à la maison, de plus être dans ce métro boulot dodo, là on en a... Je prends du temps, je ne savais pas que c'était que je saurais le faire, mais je sais très très bien le faire. Là, j'ai développé une compétence formidable pour prendre du temps, en profiter, etc. Alors du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus non plus la même dynamique... directement vers le militantisme, en fait. C'est un petit peu différent. On reste toujours aux aguets de ce qui se passe, même sans, j'écoute plus la radio, je lis plus les journaux. Je t'en parlais, Rosendo, j'ai fait une pause qui me semblait absolument nécessaire.
Tu es bien informé, quand même, quand on a parlé comme ça, on a fait des échanges.
Par contre, le réseau militant, associatif.
Ça marche. Voilà, tu as quand même de l'information.
Voilà, ça continue d'exister. Et du coup, on peut quand même encore se mobiliser quand il y a une action. Enfin, c'est toujours pareil, les actions pour RESF, ou les actions, enfin voilà, peu importe les actions sur lesquelles on peut être amené à venir, mais elles y sont. Mais c'est, moi je le vis quand même plus de la même façon, parce que le fait de se recentrer sur une vie plus sur du local, on disait, on connaît la Ninon, effectivement souvent on me dit ça, la Ninon, on connaît la Ninon au niveau militant, et donc jusqu'au niveau national par le réseau des désobéisseurs, forcément ça a eu un impact national. Mais aussi le fait de se recentrer plus au niveau local, où il y a d'autres choses importantes qui se font jour, quoi. Le réseau des amis très très proches, enfin ceux avec qui on va, enfin t'as goûté ça un petit peu le week-end dernier, Rosendo, avec qui on va faire des crêpes, manger la soupe, aller sur un bal, passer une soirée à discuter, s'organiser des débats sur tout un tas de thèmes.
Même les trajets qu'on a fait chez toi en voiture, tu as chanter des chansons de Bobby Lapointe à l'endroit et à l'envers. Déjà que chanter à l'endroit, c'est difficile. Et toi-même, tu faisais ton accompagnement avec des onomatopées, avec des entrées, tu faisais les instruments au moment que tu conduisais. Et là, je me suis régalé, franchement, parce que je me disais, l'interprétation de Ninon mérite d'être enregistrée. Et j'espère que tu vas nous régaler un moment de ces honneurs.
Bientôt un disque de reprise de Bobby Lapointe par Ninon. Et on programme ça.
Oui, on va pas le faire en direct. Là.
Mais si. Oui, tout va voir. Donc, Ninon, tu as été lié à l'école quand même 20 ans de ta vie, parce que les 10 premières années, et tu as été dans l'école pilote de Montauban. Pardon, je reprends ma question ou mon commentaire. Et tu as eu 20 ans de ta vie liée à l'école et 10 années comme maîtresse d'école dans la ruralité. Mais avant d'être maîtresse d'école, tu étais déjà 10 ans impliquée dans les activités, dans l'animation, de... bien impliquée. Donc, pourquoi tu dis que c'était une chance d'avoir passé par l'école pilote de Montauban?
Oui, alors
parle-nous un petit peu de ça.
J'allais dire, j'ai pas passé 20 ans à l'école. En fait, j'en ai passé 35 parce que j'y suis rentrée à 5 ans. J'ai passé d'abord la vie d'élève.
Oui, comme élève, oui.
Et dans la vie d'élève, parce que c'est dans la vie d'élève que j'ai eu la chance de passer deux années, le CM1 et le CM2, les deux dernières années de l'école élémentaire à l'école pilote, juste en face. Là, je vois les bâtiments par la fenêtre.
C'était appelé avant Jacques Prévert, avant de s'appeler l'école du centre.
Pourquoi maintenant il n'y a plus qu'une école?
Non.
Ah bon, d'accord, oui.
Oui,
il y a l'école
avant,
du centre sur le côté, il y a eu l'école Jacques Prévert, elle s'est appelée Jacques Prévert, je pense, l'année après que je sois partie. Elle a changé de nom à ce moment-là. On avait choisi le nom ensemble en réunion d'enfants. Pourquoi c'était une chance? Parce que j'avais déjà connu d'autres écoles, forcément, en tant que petite fille, quoi, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et dans cette école-là, réellement, j'ai trouvé... un échange entre les adultes qui nous accompagnaient et la communauté d'enfants, vraiment des échanges entre personnes. Il n'y avait pas de question de pouvoir qui serait lié à l'incompétence des enfants parce qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'y connaissent rien à la vie. Et puis des adultes qui sont ceux qui savent, transmetteurs de savoir et donc avec une... Il y avait une autorité, évidemment, une autorité de celui qui va te faire grandir, bien sûr, la belle autorité avec un grand A. Mais il n'y avait pas d'autres principes qui nous auraient empêchés de devenir, d'être des enfants en mouvement pour grandir. Moi, ça a vraiment été une révélation. Et puis, je m'en suis pas rendu compte en tant qu'enfant tout de suite, c'est évident. Puis c'était bien dans la veine de l'éducation aussi que me donnaient mes parents. Donc c'était, il y avait une belle cohérence. C'était une grande chance pour moi comme ça de pas être tiraillée entre plusieurs mondes. Mais par contre, quand j'ai repris mes études à la fac, il fallait faire un dossier sur l'auto-formation, en fait, expliquer comment, pourquoi on était devenu ce qu'on est au moment où on faisait le dossier. Hein. Donc c'était il y a quelques années de ça maintenant. Et là, vraiment, ça m'est apparu évident qu'une grande part de moi, sans rien enlever à mes parents, parce qu'ils m'ont donné énormément de choses, mais une grande part de moi, dans ma relation au monde, aux adultes, et dans la relation d'échange de savoir, venait de cette expérience-là, ici, à l'école pilote. Ouais.
Mais puisque tu parlais des parents, il y avait un hommage où... Une dédicace à faire, parce que cette émission, on va la dédier à quelqu'un.
Ah oui, alors l'émission, elle passe dimanche, mais là, on est en train d'enregistrer le 27 février, donc c'est l'anniversaire de mon papa. Et donc, je lui dis un joyeux anniversaire, papa. Voilà, c'est l'anniversaire de Jean-Marc aujourd'hui, 27 Bien. Février.
Et un bon anniversaire donc pour Jean-Marc, qu'on s'est croisé déjà à quelques manifestations. Oui.
Ah
et,
oui.
Et donc, pour revenir donc à ces parcours, déjà à cette époque-là, avant la fac, tu étais déjà impliqué dans la vie de la cité, à la contester, à la critiquer, à militer?
Oui, bah, vu qu'on vient de faire une dédicace pour l'anniversaire de Jean-Marc, j'ai envie de dire, j'ai appris à marcher au Larzac avec eux, donc parce qu'ils allaient au Larzac hein, en 73, etc. Et donc c'est voilà, c'est pas n'importe quelle école aussi, même si ça j'en ai que de vagues souvenirs, mais j'ai des photos, je sais que j'y étais. Et puis à courir à Golfech quand il y avait les luttes par rapport à la centrale nucléaire. Donc on vient pas non plus de n'importe où. Hein. Le chemin il était quand même facile et assez tracé. Oui, c'est une dynamique de vie aussi. Les parents, ils donnent ça. Même le choix éducatif de venir m'inscrire ici à l'école pilote, c'était quelque chose de... C'est un acte volontaire de leur part. Donc, tout le temps, effectivement, dans cette mouvance-là de revendication, pas seulement, mais j'allais dire d'une utopie, mais... Même pas, il paraît que l'utopie, on n'y accède pas. Enfin, si, d'une utopie à laquelle on accédera, nous.
Oui. Boris, tu l'as rappelé aussi, que tu incarnes très bien, c'est la joie de vivre.
Ouais, ouais. Bah,
mais je pense que ces côtés-là, on n'est pas insensible quand on te découvre, Ninon. Tu revendiques, tu contestes, mais tu ne perds pas la joie de vivre.
Ouais, mais ça va ensemble, parce que sinon, il n'y aurait pas la force, je crois, pour le faire.
Sokamin detalera, sokamin detalera, sokamin detalera, so camin detalera, so camin detalera, yolla la mirolira, yesu camin detalera, yolla la mirala. Son camide tallera, yolla la miralira, y es un camide tallera, yolla la mirala.
Rencontrere un becero, le fame d'un abuca, yolla la miralira, le fame d'un abuca, yolla la mirala.
Le fame d'un abuca, yolla la miralira, le fame d'un abuca, yolla la mirala.
Dusse melli de manderi, fammi simbulet ludia, yolla la miralira, fammi simbulet ludia, yolla la mirala.
Fammi simbulet ludia, yolla la miralira, e fammi simbulet ludia, yolla la mirala.
La mira certo la mirala, de la mira certo la mirala. Ben lo irei a mon custa, yolla la mirolera. Ben lo irei a mon custa, yolla la mirola.
Ben lo irei a mon custa, yolla la mirolera. Ben lo irei a mon custa, yolla la mirola.
L'ambucane salle ville, l'ambucane salle ville, nen sei pa condri vendra, yolla la mirolira, nen sei pa condri vendra, yolla la mirola.
Nen sei pa condri vendra, yolla la mirolira, nen sei pa condri vendra, yolla la mirola.
Quambi nulle meine tene, quambi nulle meine tene, l'ambucane s'arriva, yolla la mira lira, la bucane s'arriva, yolla la mira la.
La bucane s'arriva, yolla la mira lira, la bucane s'arriva, yolla la mira la.
Jetzt sind wir frapp alle Porte, jetzt sind wir frapp alle Porte, jomri mehe simbus platz, yolla la mira lira, jomri mehe simbus platz, yolla la mira la.
Jomri mehe simbus platz, yolla la mira lira, e ombre mea zimbus bra, yolla la mira la.
La minulante jami che paro, la minulante jami che paro, nelle fane entremus bra, yolla la mira lira, nelle fane entremus bra, yolla la mira la.
Nelle fane entremus bra, yolla la mira lira, nelle fane entremus bra, yolla la mira la.
Anetta netta lo servente, anetta netta lo servente, lo servente pobrirà, yolla la mira lira, lo servente pobrirà, yolla la mira la.
Lo servente pobrirà, yolla la mira lira, lo servente pobrirà, yolla la mira la.
Jetzt sind wir all'autoporte, jetzt sind wir all'autoporte, jombri mei e simbus plac, yolla la mira lira, jombri mei e simbus plac, yolla la mira la.
Jombri mei e simbus plac, yolla la mira lira, jombri mei e simbus plac, yolla la mira la.
La minulente jami che paure, e comulente jami che paure, senca fievre tre giusia, yolla la mira lira, senca fievre tre giusia, yolla la mira la.
Nella fiebre tre giusia, yolla la mira lira, nella fiebre tre giusia, yolla la mira la.
Soccami de tallera.
Alors, c'était une chanson pour danser le rondo. Le rondo en chaîne, une chanson en occitan, Sucamin de Talero. C'est un rondo des Landes, en fait.
Bien, donc ça fait partie de ta découverte de la musique traditionnelle d'ici, tu tiens à le préciser.
Oui, voilà, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et puis, je l'ai découvert un petit peu par hasard quand j'ai eu envie de reprendre mon violon. J'avais abandonné le violon pendant 25 ans, entre les années de conservatoire et puis... Et puis le moment où j'ai eu envie de le reprendre, où ça m'a vraiment démangé, je voulais pas reprendre avec la musique classique parce que j'en avais pas que des bons souvenirs, malgré que j'ai beaucoup aimé plein de choses. Enfin, j'aime beaucoup la musique classique, mais j'avais des choses, des souvenirs un petit peu douloureux du conservatoire, on va dire, en termes de contraintes, là aussi, par rapport au bonheur de faire de la musique, j'ai trouvé que c'était peu épanouissant comme apprentissage. Et du coup, je me suis dit, bah, faudrait trouver une autre façon de faire de la musique. Et puis, pourquoi pas, enfin s'inscrire dans un patrimoine aussi culturel de la région, parce que je suis arrivée ici quand j'étais petite, j'avais 8 ans, et malgré tout, j'avais jamais eu le sentiment de m'ancrer, de prendre racine, donc c'est peut-être le moment, c'est bien là.
Tu as deux violons, un que tu trimales un peu partout, même j'ai vu que les traitements que tu as avec, les rapports que tu as avec les violons, c'est assez décontracté, et même parfois un peu nonchalant, voilà, ce violon-là, je le promène un peu partout, mais j'ai un autre violon, un deuxième, qui là, donc je fasse plus attention. Alors, comment ça se fait que tu as un violon titulaire et un violon suppléant? Quel rapport tu as avec ces deux violons?
Ouais, alors le violon suppléant, il joue davantage que le premier, en fait. Alors le premier violon, c'est mon grand-père paternel qui me l'a offert quand j'étais toute petite. Avant même que je commence le violon, je voulais faire du violon depuis l'âge de 4 ou 5 ans, et un jour quelqu'un lui a donné un violon, il a dit il sera pour ma petite fille, et il était trop grand bien évidemment, mais j'ai quand même appris sur ce violon là c'est avec lui que j'ai fait mes années de conservatoire. C'est un bon violon, un violon d'étude, hein, c'est pas une grande pointure, mais un bon violon mirecourt. Et quand j'ai commencé à jouer, l'idée c'était aussi de jouer dans la rue. J'aime beaucoup jouer du violon dans la rue, au milieu des passants, sur les marchés en particulier, j'aime beaucoup. Et ça me faisait, ou alors dans les fêtes, quand une fois que la fête se termine, que tous les instruments sont débranchés, moi je peux sortir le violon, jouer en acoustique jusqu'à la fin de la nuit, donc entre 3h et 5h
oui,
du matin.
Oui, comment s'est passé à Arcambal.
Oui, c'est ça. Et du coup, un beau violon, surtout s'il est unique pour moi, parce que je n'en avais qu'un à ce moment-là, mais j'avais très peur. J'avais peur de plus l'avoir, en fait. J'avais peur de l'abîmer et qu'il se passe quelque chose. Donc je me suis dit que je pouvais me trouver un violon tout-terrain, un avec lequel j'aurais peur de rien. Alors, ouais, tu parles de nonchalance, c'est intéressant. Peut-être que c'est ce qui est perçu. En fait, il est un peu comme une partie de moi, et on fait pas forcément attention où on pose les doigts et où on pose les pieds, mais c'est pareil, le violon, celui-ci, il est solide, je lui fais confiance, je sais qu'il est pas tout seul aussi. S'il se passe quelque chose, j'aurai quand même toujours un violon. Après, c'est vrai que c'est un violon tout terrain, c'est pas un violon de qualité. Je l'ai acheté par correspondance sur Internet sans l'essayer. Enfin, quand même, un bon vieux violon d'occasion, quoi.
Mm-hmm. Mm. Oui. Et pour revenir au violon, là, quand tu as joué à Arcambal, non? Parce que je puis t'apprécier d'abord, ces samedis-là, les samedis 18, pardon. Et que tu jouais au marché de Montauban, au marché des producteurs de Montauban. Et après, à la fête d'Arcambal. Mais il y avait aussi de la musique pas d'ici. C'était la musique scottish, non?
Ah, mais la scottish, c'est une danse d'ici.
Oui.
Oui. On le danse ici. Par contre, effectivement, à Arcambal, je jouais dans le groupe Shaman.
Voilà.
C'était ma première date avec eux. Ils ont eu la gentillesse de me proposer de jouer avec eux, et c'est super. On s'est bien amusé, donc on va continuer un petit bout. Là, les scottish qu'on a joué, elles venaient de Suède.
Mm-hmm.
Mais effectivement, par contre, on les danse ici comme on danse les scottish.
Oui,
citane,
oui, parce que
quoi.
Je trouvais certaines similitudes, hein, même s'ils viennent de Suède, il y a apparemment une constante
de
la manière de, oui, mm-hmm. une constante rythmique, mais aussi au moment de faire des figures de la danse.
Ah oui, oui.
Donc, il ressemble à beaucoup.
Alors, disons que je ne sais pas comment est-ce qu'on danse ces danses-là quand on est en Suède. Mm-hmm. Mais cette musique-là, ici, c'est comme ça qu'on la danse.
Oui, oui.
Après, le groupe Shaman, celui que tu as vu samedi, il fait de la musique traditionnelle, qu'on pourrait qualifier peut-être davantage de folk. Enfin, je ne veux pas qu'il me tire les oreilles, mais on n'est pas effectivement dans le répertoire
oui.
traditionnel occitan seulement.
Oui, il y a un autre groupe que tu as formé avec Vincent Ligo, oui. Adius. On
oui.
dit comme ça, Adius.
Alors en fait, on l'a écrit A-D-U-S et donc on le prononce Adius. Notre première idée, c'est un nom qui nous a été donné par un ami très cher qui est violoneux aussi et qui est maraîcher bio. C'est Christian, coucou Christian. Et il a pensé que pour le nom du duo, Adius, ça serait très bien parce que ça veut dire à deux en occitan et puis c'est doux. À douce.
Mm-hmm. Oui.
Mais alors après, on a eu un tout bête problème de comment est-ce qu'on va l'orthographier. En occitan, il faudrait l'écrire A-DOS, Alors on dirait ados, ça fait un peu espagnol. On dirait ado, ça fait carrément jeune. Et donc pour le prononcer ados, c'était pas évident. Donc on a choisi de faire une orthographe. J'y connais rien en occitan. Alors c'est peut-être en béarnais du coup qu'on l'a écrit. Enfin là, les puristes ils le sauront, tant pis. Et puis les autres, on va dire qu'on s'en fiche. Donc on l'écrit ados, mais quand on y pense, on dit ados parce que c'est doux.
Donc il y a le groupe Chaman que tu viens de décrire et avec Vincent Ligou. Et à 12, quel genre de musique as-tu fait?
Là, on est dans le répertoire traditionnel occitan, vraiment, vraiment, quoi. Le répertoire que j'appelle Roots, vraiment le vrai d'ici, pas forcément trop compliqué, pas brillant, pas clinquant, de l'efficacité. Un petit peu ce qu'on vient d'entendre là, cette chanson, ce rondo qu'on vient d'entendre, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a rien, il y a trois voix, il y a des claps de mains, et ça suffit, enfin, les gens qui dansent un peu qui dansent les danses traditionnelles, ils auront reconnu un rondo. Et voilà, il suffit de vraiment pas grand-chose pour pouvoir directement rentrer en danse. Même une bourrée, on peut la faire juste avec quelqu'un qui va taper dans les mains, quoi. Et il y a une énergie, il y a un souffle, ça nécessite pas forcément beaucoup de notes et de brillance.
Bien, puisqu'on parle d'ici, on parle des territoires proches, je m'adresse maintenant à Boris, parce que Boris avait quelque chose à nous dire par rapport à une actualité des... soit de Negrepelis, de la Place de la Palabra, mais aussi tu avais autre chose à nous dire, Boris.
Oui, alors on va faire l'agenda, la rubrique agenda, pour vous donner rendez-vous donc à la Palabre du mois de mars. Donc c'est jeudi qui vient, jeudi 6 mars, à 20h30 à la médiathèque de Negrepelis. Et dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début de l'année, là, on va continuer sur les « Je suis ». Donc on a fait « Je suis mes émotions »,« Je suis ce que je crée ». Et donc là, en mars, on va faire « Je suis ce que je rêve », autour des rêves, du non-conscient, etc. Et on sera avec Bruno Collin de l'association Jade. On va discuter de tout ça, et puis peut-être aussi expérimenter à plusieurs ce qu'on appelle un rêve éveillé. Donc j'invite tout le monde à venir à Negrepelis, 20h30, jeudi, c'est une entrée libre. Bien sûr.
Il faut signaler aussi que dans cet échange de paroles que tu animes, Boris, tu cherches aussi à mettre en exergue les sciences, la neuroscience, comment les neurosciences se placent vis-à-vis de l'identité « je suis » à travers les rêves.
Ouais, on va essayer de donner effectivement quelques éclairages du côté de les sciences, de par exemple ce que dit la science aujourd'hui de la... des gens qui font de la méditation et qui sont très très bons pour ça, et de ce que les neurosciences voient, de ce qui se passe dans leur cerveau et qui confirment qu'il se passe quelque chose de très particulier, par exemple.
Et comment tu réagis vis-à-vis des rêves? Je sais que tu as un rêve de faire un potager, mais est-ce que tu as d'autres rêves à part tout ce que tu viens de nous raconter avec la musique, avec la désobéissance civile, ni non?
Ah oui, moi des rêves, j'en ai plein en fait. Je crois que le rêve éveillé, je dois être en plein dedans à peu près tout le temps, quoi. C'est la vie, elle est faite d'espérance. On se lève le matin parce qu'on sait qu'on va faire quelque chose. Enfin, sinon, moi, je reste au lit. Hein. Si j'ai pas un rêve, si j'ai pas quelque chose, alors il faut que le rêve du jour soit encore plus fort que le rêve de la nuit. Et comme ça, on se lève et on retrousse ses manches et on agit.
Oui. Boris, tu avais une deuxième information à nous faire passer?
Alors la deuxième, c'est pour le samedi 8 mars. C'est la mise en circulation de la monnaie locale Sol Olympe. On en avait parlé un peu la dernière fois. Plus d'infos sur le fond, sur ce qu'est une monnaie locale, sur sol-olympe.info. Mais sinon, donc le 8, on fera le lancement des billets en vrai, donc le matin au marché de producteurs à Montauban, et toute la journée à l'épicerie Biosol. Donc on sera un certain nombre de membres de l'association à être présents pour donner de l'info, prendre les nouveaux adhérents, et même pouvoir donner des sols. Alors évidemment, il faut donner des euros en échange, mais voilà, on a tout organisé pour pouvoir faire ce lancement, et qui marque le début de, ben voilà, c'est Sol Olympe qui circule avec les objectifs de la monnaie locale, de faire du lien, de revitaliser le local, de valoriser certains échanges, etc., etc.
C'est bien le 8 mars.
8 mars.
Oui,
samedi 8 mars.
Donc c'est voilà. Aussi la journée internationale.
Oui, alors il se trouve que le sol du Tarn-et-Garonne s'appelle Olympe de Gouges, et que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors bon, on peut ne pas rater le petit lien. Entre les deux, même si 365 jours par an, ça serait mieux.
Abi si zet men parla, ma devo matti al porta. Mentre del sole spera vem, y el caro sveglia in passa. Si zet che no veus restaca, on estem tots ligats. Si no podem desfer nos en, mai no podrem caminar. Si es tirem tot, se ja caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben fort cara l'heu ser ja. Si tu l'estires fort per qui, io l'estiro fort per ja. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però si ja et fa molt temps, ja, les mans en van escurxant, i quan la força se me'n va, elles més amb i més gran. Pensar-se que està podrida, però és que si ja et costa tant, que a cops la força m'oblida, torna'm a dir del teu cant. Si estirem tot, se ja caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben fort cada vez ja. Si tu les tires fort per aquí, i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La misisa ja no jures, mal bé que se'l va emportar. El qui sap cap a qui l'indret, i jo sento el portal. I quan passeig en un mairet, estira el cuell per cantar. En arena no era el que me van enseñar. Si estirem tot, se ja caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben fort cara ensenyant. Si tu les tires fort per aquí, i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Segur que tomba, 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 i es podrem alliberar.
Donc là on a entendu l'Estaca de Luis Liach. Et voilà, une chanson de lutte que moi j'ai entendu chanter d'abord en français quand j'accompagnais ma mère, Marie-Françoise, dans ses stages de formation des animateurs BAFA avec les CMEA. Et il y avait toujours des grandes soirées chants et souvent des chants révolutionnaires, des chants de lutte. Et c'est comme ça que j'ai connu celui-ci. Et puis j'en profite pour dire que trois morceaux pour venir à une émission de radio, c'est pas du tout suffisant, ou alors c'est beaucoup trop, j'en sais rien. Ben moi c'était compliqué, j'en avais à peu près 50. Et voilà, bon, du coup pourquoi pas celui-ci, ouais, c'est une très très belle chanson. Et là elle est interprétée par un pas un tout jeune groupe, mais enfin un groupe que moi j'ai découvert à Vaour cet été, qui s'appelle El Comunero. Ils ont été super parce qu'ils m'ont offert le CD cet été à Vaour. Et un jour, quand j'aurai des sous, c'est promis, je leur enverrai 10 euros. C'est des musiciens qui tournent ici dans la région, Toulouse, Bordeaux. Voilà, ils ont vraiment une belle énergie sur scène. Et le chanteur, je crois, a dédié ce disque, ou en tout cas les chansons, à son grand-père espagnol. Ouais.
Bon, puisque tu fais un portrait ou un autoportrait à travers la musique, mais moi aussi, j'essaye de faire ton portrait à travers une œuvre que tu as choisie, que c'est les Guernica de Picasso, un tableau historique, parce qu'en 1937, il avait reçu commande par le gouvernement républicain, pour marquer un coup contre le nazisme, contre le fascisme qui s'installait en Europe. Et ce tableau qui raconte les bombardements des villages de Guernica, Picasso l'avait fait volontairement en noir et blanc, immense. Longtemps était à New York, maintenant il est revenu à Madrid. Et c'est un tableau qui t'a accompagné dans ton enfance, Ninon.
Voilà, ce qui m'a accompagné, c'est réellement le côté visuel de cette œuvre de Picasso. J'aime vraiment pas tout dans les œuvres de Picasso. Je suis même pas sûre de savoir apprécier le personnage. Mais ce tableau-là, il y en avait une reproduction, alors bien plus petite que l'original, évidemment, mais qui devait quand même bien faire 3 ou 4 mètres de long. chez moi, dans la petite maison qu'on habitait en banlieue parisienne avec mes parents, donc avant que j'aie 8 ans. Et c'est vrai que c'est un tableau qui m'a marqué, les visages m'ont marqué, les points levés, les contrastes de noir, de blanc, les zones grises. Je crois que même sans connaître l'histoire de ce tableau, c'est quelque chose qui m'a marqué. Peut-être même je l'aurais choisi malgré tout, quoi.
Oui, est-ce que tu as des images? Parce que c'est un foisonnement des symboles. Ce tableau, il est très chargé. On a les taureaux qui représentent oui. apparemment la force brute du fascisme. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que Picasso, il était un amant de la corrida. Donc c'est ça qui est un peu schizophrénique, me semble, chez lui, qui aimait la corrida. Et en même temps, dans son tableau, il montrait les taureaux comme une force agressive.
Oui, une force brute.
Brute, hein. Oui. Et de l'autre côté, bon, même si ceux qui défendent la corrida, et pour rendre honorable cette passion au taureau, on oublie en disant que c'est la force brute maîtrisée par l'homme. Donc peut-être que ça, on pourrait trouver une certaine cohérence. Bon, enfin, il y a opposé le cheval qui est souffrant, il y a une femme avec son enfant, mais tout avec la technique du cubisme, c'est-à-dire avec des formes géométriques, raides et très, très coupantes, on pourrait dire, non? Comme fait vite, comme réalisé à la hâte. Mais tous ces foisonnements, tout ça se croise, se superpose, et noir et blanc, bien sûr, avec des aplats et des dégradés. Il y a aussi la fameuse Colombe de la Paix, bon, ça c'est une autre histoire. Et toutes ces images-là, pour un enfant de 8 ans à la banlieue parisienne, et ça ne te faisait pas trop peur, là, ces images de guerre?
Alors, non, moi je crois que je n'ai pas connu la peur, en fait, très simplement, parce que quand on est élevé avec beaucoup d'amour, on a confiance malgré tout dans le monde. Par contre, je ne l'ai pas re-regardé. Tu m'as demandé un tableau, là c'est pareil, on se dit mince, lequel? Celui-ci s'est vraiment imposé très très rapidement, mais je ne l'ai pas revu et probablement je ne l'ai pas revu depuis un voyage que j'ai fait en Espagne quand je vais être en sixième, parce que j'apprenais l'espagnol et qu'on s'est dit c'est bien d'aller parler espagnol en Espagne. Mais puis on a fait la Catalogne comme ça, moi je n'ai pas pu parler espagnol de tout le voyage. Mais là je suis quand même allée jusqu'à Madrid et je l'ai vu en grand. Mais les images que j'ai sont simplement les images d'enfants. Non, non, c'est pas du tout de la peur. Du questionnement, oui, certainement. Et puis ce côté, l'humain, c'est ça, oui, c'est coupé au couteau. C'est pas forcément, on n'est pas des Barbies. On est la rugosité des sentiments, les questions qu'on a sur la vie. Enfin, moi, je trouve exactement ça dans ce tableau.
Une réaction, Pauline, vis-à-vis de l'influence que peut avoir des images dans l'enfance, parce que c'était aussi un peu le sujet de la place de la parole, comment on devient par l'éducation artistique, parce que c'était ton sujet là, les dernières fois. Ça continue à l'être.
Non, pas de réaction particulière. En vous écoutant et en regardant les images de Guernica que tu as sous les yeux, ça me faisait penser à... une anecdote personnelle entre guillemets, mais c'est les images dans les toilettes chez mes parents. Il y avait du liège avec du noir dedans. Je sais pas s'il y a différentes qualités de liège, et il y en a certains qui ont des petits éclats noirs comme ça, et ça dessinait des choses. Donc je passais le temps que j'étais là à voir des choses dans ces petits motifs, des bêtes, des, bon voilà, je sais, en vous écoutant ça m'évoquait ça, parce que voilà, à la fois le côté du rêve de tout à l'heure et à la fois Guernica, c'est vrai que c'était pas un tableau, c'était juste des plaques de liège, et ça me faisait penser à ce que vous disiez.
Alors que moi, quand j'étais petite et que j'étais aux toilettes, il y avait le petit livre rouge de Mao, et je lisais ça de façon tout à fait consciencieuse. C'était quand on était à Montfermeil en 93, avant d'arriver ici, et donc j'apprenais à lire effectivement, et ce petit livre rouge, bon, c'est pas ce qui était dedans qui m'intéressait, mais il était tellement petit, tellement mignon, et rouge comme ça, c'était attrayant. Les toilettes, c'est une grande histoire.
Ah, mais oui. Mais...
On a dérivé, là, je crois, Rosendo.
Non, 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 pas du tout, parce que justement, je voudrais, puisque vous en parlez des toilettes, je pense que le meilleur endroit pour afficher un tableau qu'on aime, c'est les toilettes. Et juste en face du WC. Pourquoi? Parce que, en réalité, les toilettes restent le seul endroit qui, il me semble, on est tout seul. Mais sauf pour certains couples qui vont faire des petites pirouettes excentricité aux toilettes. Mais je parle en général, les toilettes, tu vas tout seul, sauf si tu es trop lié ou esclave de ton portable que tu vas l'amener aussi. Mais en réalité, tu vas réfléchir aux toilettes. Mmh. Et du coup, si tu te retrouves devant un tableau ou un dessin, et c'est le tableau qui est le mieux regardé parce que tu as la paix pour le regarder. En revanche, si tu le mets au salon, si tu le mets dans la chambre, etc., il est déjà parasité par d'autres stimuli et d'autres centres d'intérêt. Et c'est pour cela que je suis content que vous en parliez des toilettes, parce que deux amis, une de Negrepelisse et une autre de Saint-Étienne de Toulmont, on m'avait demandé de faire des dessins, non? Alors je choisis plutôt les toilettes. Et une d'elles fait des dessins à ses invités, des écritures, des textes sur les toilettes, pardon, sur les murs des toilettes, justement ceux qui sont en face ou à côté. Et là, j'ai choisi l'espace le plus stratégique pour les voir, justement.
Bon, c'est un nouveau concept de musée qu'on vient d'inventer. Je crois qu'il y a quelque chose à déposer. Un musée où ça serait juste des petites cabines.
Moi, je suis en train de refaire mes toilettes puisque j'ai construit hier et avant-hier avec mon dernier enfant, enfin Louis Azad, qui a 12 ans. On a construit le bloc des toilettes sèches. Donc nous, on rentre dans l'ère moderne et ultra écologique puisque je démonte les toilettes à eau là demain. Et on met les toilettes sèches. Donc du coup, ça, c'est fait. Mais il faut repenser la décoration, du coup. Donc j'avais un planisphère, parce que c'est bien aussi d'observer le planisphère pour voyager depuis les toilettes. Mais pourquoi pas, effectivement, des tableaux. Alors je vais y penser.
Ah oui, bien sûr. Comme ça, tu pourras te souvenir des lièges, des moisissures ou des petites taches noires, des moisissures, des lièges de Boris. Et si tu veux un petit graffiti, tu me fais signe et je vais te le faire. Ouais. Bien, il y a un autre aspect qui va dessiner ton portrait, oui, et c'est les films. Donc tu as choisi un film 01.
Ah oui, alors l'an 01, bon, c'est pareil que pour Guernica, c'est vraiment quelque chose. Alors c'est du noir et blanc aussi, mais ça c'est parce que c'est daté, c'est d'époque. C'est un film, je pourrais pas te dire son année de sortie. Ça
s'intéresse justement, tu avais parlé des 73.
Alors moi j'ai dû le voir en 76 ou 77, donc j'étais pas grande, je devais avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Et là c'est pareil, il y a des images, je l'ai vu au cinéma avec mes parents, et c'est des images qui m'ont marqué vraiment. En particulier là, la scène où on jette les clés. La scène de l'an 01 où on jette les clés par la fenêtre, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Finalement, je continue de jeter les clés. C'est comme ça, c'est rarement fermé. Là où je vis, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et voilà, c'était un symbole. Alors là, la joie de vivre dans l'an 01, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une conquête de ces personnes-là. Alors je l'ai revu, lui, par contre, je me suis payé le luxe de le revoir il y a peut-être 3 semaines de ça, 3 semaines ou un mois. Et vraiment toujours avec autant de ravissement. Quoi. Oui. Ceux qui l'ont pas vu, on peut organiser une projection à la maison.
Peut-être qu'on pourrait rappeler nos auditeurs de quoi il s'agit, parce que certains auditeurs méconnaissent ce film. Hein, c'est-à-dire que c'est une espèce des contes, des fables sur l'abandon utopique de l'économie du marché et du productivisme. On est en plein dedans, mais si tu vois la date de sortie, 73, actuellement on est en plein dedans. Il n'a pas perdu de sa vitalité, ce film, parce qu'il parle des côtés libertaires et de tout cet arrêt en cause de la société. On arrête tout, je crois qu'il y a
On réfléchit et c'est joyeux. Non, c'est pas ça le sous-titre. Il me semble qu'on arrête tout, on réfléchit et c'est joyeux. Il y a quelque chose de... Je cherche depuis tout à l'heure, mais ça ne me revient pas.
Je ne sais pas. En tout cas, on arrête tout, ça c'est évident. Puis on arrête tout, mais voilà. Et la première décision qu'on prend, qui est une décision grave de tout arrêter, d'accord, on arrête tout, mais pour le faire ensemble, quand est-ce qu'on arrête? Et donc, il y a tout de suite les premières organisations en autogestion qui vont se faire jour. Et il y a le questionnement du grand productivisme. Bon, ben, si on n'a plus besoin de produire parce qu'on a suffisamment... On arrête tout et puis quand on aura à nouveau la nécessité d'eux, eh ben on reprendra pour le temps qu'il faut. Mais voilà, de pas être comme ça dans cette société de consommation, de production à outrance et donc de gaspillage de déchets. Puis bon, c'est que des beaux jeunes gens. Tiens, là, il y en a un. J'aurais bien aimé aussi le trouver en disque, mais d'abord je ne pouvais pas. Puis j'ai pas ces disques ou pas sous la main. Il y a François Béranger qui chante, qui apparaît dans ce disque et qui chante. C'est un bonheur aussi.
Bon, à propos du disque, on va passer à ton dernier choix musical.
Ouais. Alors là, je peux dire avant.
Oui, oui, vas-y, vas-y.
J'ai amené en fait une compile de 99 titres, les plus grands succès de Lenny Escudero que j'aime énormément, comme beaucoup d'autres, mais lui j'avais le disque, hein, ça tombe bien. Et donc comme je sais pas du tout lequel on allait choisir, on met le numéro 1. Et c'est la communale.
C'était le temps de l'enfance et nous nous rappellerons le temps de la communale, des premières initiales, le temps de la communale, des premières initiales que l'on grave en se disant je défie le temps de la communale, première marche nuptiale, on commence à communier avec l'amitié. Il suffira que le temps passe et que l'eau coule sous les ponts pour qu'un jour à cette même place, un autre petit garçon tienne la main de Florence, Marie-Celle de Riton. C'était le temps de l'enfance et nous nous rappellerons le temps de la communale, les premières initiales que l'on grave en se disant je défie le temps de la communale, première marche nuptiale, on commence à communier avec l'amitié. La 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 la. Qu'est devenue l'institutrice? Je sais, elle avait les yeux bleus, elle nous aimait l'institutrice, on le lui rendait bien peu. L'instituteur, son air féroce, au fond n'était pas si méchant. Je cherche la fée Carabosse pour qu'elle me ramène au temps de la communale, des premières initiales que l'on grave en se disant je défie le temps de la communale, première marche nuptiale, on commence à communier avec l'amitié. La la la.
Ben donc voilà, c'était Lenny Escudero,
oui.
La communale.
Oui, merci d'avoir partagé toutes ces belles musiques avec nous. Ninon, je veux rappeler simplement à nos auditeurs que les films, pour les retrouver, vous allez les retrouver dans toutes les médiathèques, dont le film 01, qui est sorti en 1973. Il avait été réalisé par Jacques Doyon avec les scénarios d'IGV, parce que c'est à partir de la bande dessinée d'IGV qui a... Bon, voilà. Donc, on passe maintenant à notre dernier volet, Ninon. Et Boris avait quelques questions à te poser.
Non, je voulais que tu nous précises, parce que tu es passé fort vite au début de l'émission sur tes différents implications musicales. Alors,
oui.
du plus solitaire qui ne l'est pas tout à fait, tu vas nous raconter ça au plus collectif. Voilà, tes différentes activités de violoneuse.
Mais ben, je vais même le prendre à l'envers, je vais partir du plus collectif et arriver au plus solitaire, parce que il y a moins d'actualité pour le premier groupe que j'ai intégré, c'était alors pas cet été, l'été précédent. Alors ça devait faire 2012, hein, c'est ça. Il s'appelle les Violons de Garonne, les violons de Garonne. C'est un groupe avec 6 violons et 2 violons alto. Avec des gens de toute la région, mais ça va de Bordeaux, Limoges, jusqu'ici le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Voilà, c'est là que j'ai fait mes premiers pas, c'est grâce à eux que j'ai découvert une grande part du répertoire de la musique traditionnelle. Donc pour l'instant, on n'a pas d'actualité pour animer des balles et vous faire danser, mais ça va arriver, comme le printemps va arriver, et ça va arriver aussi. Donc je disais tout à l'heure que j'ai intégré aussi Chaman avec une première date le week-end dernier. Et on rejouera avec Chaman le 22 mars à Varères, ça doit être dans le 46, ça doit être dans le Lot, juste à la frontière, là, en allant vers Limogne, puis la Roque, entre puis la Roque et Limogne, je crois. Voilà, ça va être une belle aventure, encore une fois. Plus proche, il y a le 14 mars avec Vincent, donc le duo à Douce. On joue le 14 mars à Nègrepelisse, à la salle des fêtes, que la mairie nous octroie gracieusement. Et c'est organisé par l'IEO 82, l'Institut des études occitanes. Et voilà, c'est super qu'ils veuillent bien soutenir notre duo qui est tout nouveau, puisque ce sera la deuxième date et la première date en Tarn-et-Garonne. Voilà, donc avec Vincent et le duo à Douce, c'est le vendredi 14 mars à Nègrepelisse.
À 21h.
À 21h, mais si on veut, on peut arriver dès 18h pour faire un petit dépatouillage. Le dépatouillage, c'est essayer justement de retrouver les pas de la scottiche, les pas de la bourrée, comment condenser une polka. Enfin voilà, prendre un petit peu d'avance sur le bal pour pas être trop perdu après quand ça démarre à fond. Et ensuite on amène chacun quelque chose, on mange ensemble, c'est drôlement sympa. Et à 21h par contre, là c'est sérieux, ça démarre. Vincent et Ninon, ils montent sur la scène et ils font danser toute la nuit, enfin jusqu'à 1h du matin au moins, voilà. Et puis alors ensuite, on n'a pas de date précise, mais on est, dès qu'il fait beau et qu'il y a un marché par là, on est dehors. Donc c'est Ninon et son violon et Pichutilio. On n'avait pas encore parlé de Pichutilio, c'est une petite compagne ou un petit compagnon, selon que c'est une marionnette ou un pantin finalement, qui m'accompagne depuis le mois de décembre, qui est violonneuse comme moi, qui joue du violon avec moi, même souvent mieux que moi, le public le dit régulièrement, et donc avec elle je joue sur les marchés, le marché de Montauban. J'étais pas sûre de trouver mon bonheur en venant sur le marché de Montauban. En vérité, au mois d'août, quand j'ai commencé à jouer sur les marchés, c'est la ville. Moi, je suis quand même devenue une de la campagne. Et finalement, j'ai trouvé des gens superbes,
oui.
Avec des beaux sourires, qui sont agréables, qui s'arrêtent pour écouter, qui parfois esquissent un pas de danse. Voilà, il y a un très bel accueil de la musique traditionnelle.
Complètement différent de ce qui s'est passé dans la rue de Montauban.
Oui, alors sur le marché, il y a un très bel accueil. Et oui. En rue, avant, je jouais vraiment que sur les marchés. Puis quand Pichutilio, ma petite marionnette, est arrivée pour m'accompagner, alors je me suis dit, là, on fait carrément du spectacle. On pourrait même aller animer les rues de Montauban. Et au mois de décembre, donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai eu du succès auprès d'un public, surtout avec les enfants, tout ça, qui trouvaient superbe cette petite marionnette. Simplement avec une légère altercation, on va dire, à la mi-décembre avec la police municipale qui m'a informé qu'on ne pouvait pas jouer librement du violon dans les rues de Montauban, ou en tout cas qu'on ne pouvait pas jouer du violon et ouvrir son étui, puisque ça, c'était associé à de la mendicité. Donc quand on fait de la musique dans la rue et qu'en échange, on est un peu rétribué par son public, hein, c'est des toutes petites piécettes qui tombent. Ce qui compte, c'est le nombre du public. C'est comme ça qu'on peut devenir riche peut-être un jour. Donc on m'a dit qu'il fallait aller demander une autorisation pour pouvoir jouer dans la rue et gagner de l'argent avec cette activité artistique. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que malgré la désobéissance, malgré les revendications, je suis quand même quelqu'un de très obéissant et j'aime bien être dans les clous. C'est important, les clous aussi. Et avec cette autorisation, on m'a autorisé à jouer toute la période des vacances. Et le 3 janvier, mon autorisation courait jusqu'au 4. Et le 3 janvier, la police municipale est venue me trouver en ville alors que je jouais, avec un public de 10 ou 15 personnes, des enfants, donc des parents qui étaient là. Et ils m'ont annoncé que mon autorisation, elle ne valait pas. Qu'elle valait seulement pour jouer du violon, mais pas pour ouvrir la boîte à violon dans laquelle chacun peut participer pour me rétribuer. Donc il y a certainement eu une incompréhension, parce que pour jouer du violon, là je suis formelle, parce que j'ai regardé les textes, les arrêtés municipaux, etc., il n'y a besoin d'aucune autorisation. Donc quand on m'a donné l'autorisation c'était forcément pour jouer en ouvrant mon étui à violon. C'est ce que tout le monde m'a dit à ce moment-là. Alors ça, c'est complètement remis en cause. Et j'ai eu à nouveau une altercation avec la police municipale le 3 janvier, avec un public qui a été très généreux et solidaire, qui m'a vraiment soutenue. Et puis, il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de suite. Sauf que j'ai reçu une convocation au commissariat quelques jours plus tard. Donc, c'était un petit peu la surprise. J'ai pas désiré me rendre au commissariat de Montauban parce que j'ai rencontré le commissaire déjà et je crois qu'il ne m'aime pas. Il a peut-être de très bonnes raisons, mais j'avais pas envie d'aller le rencontrer, ce monsieur. Donc je suis allée à la gendarmerie de mon village. Je préférais aller à la gendarmerie de Nègrepelisse, voir les gendarmes de mon village, qu'on discute de ça entre gens un peu civilisés. J'ai essayé de m'expliquer. Et pour l'instant, je ne sais pas ce qui va advenir. J'ai appris que finalement, c'était le tribunal de police qui jugerait, donc le commissaire. Donc, bon, le serpent se mord un peu la queue. Je risque donc probablement une amende de 38 euros après un mois et demi de formalité et paperasserie administrative pour avoir osé donner un peu de bonheur aux habitants de Montauban en échange de quelques piécettes.
Mais puisque tu écris et puisque tu joues du violon, peut-être que tu pourras... Cet événement pourrait susciter la création de la chanson qui pourrait s'appeler Main courante.
Oui, alors je te remercie pour le titre parce que c'est vrai qu'écrire une chanson sur cette aventure, j'y ai pensé. Je ne l'ai pas fait encore, j'ai besoin que ça décante parce que c'est violent cette réponse que cette société nous apporte alors qu'on est juste là effectivement pour gagner un peu d'argent, mais surtout pour donner du bonheur aux gens. Quoi. Oui. Moi je l'ai vécu vraiment avec violence, donc il faut que j'attende que ça décante et peut-être. Oui. Effectivement, il y aurait un texte.
C'est rigolo, c'est ce dont on parlait avec Jean-Yves Pagès
la dernière fois.
L'expression et les arts dans la rue, et voilà, un exemple.
Oui. Donc je remets à tous nos auditeurs les liens pour pouvoir réécouter nos anciennes émissions. Et donc effectivement, avec Jean-Yves Pagès, on avait parlé à ces sujets-là. Et un dernier mot au sujet, pourquoi tu as désobéi civilement l'éducation nationale.
Ah non, il reste 2 minutes. Là.
Version
il y a
courte.
4 années de désobéissance civile. C'est quand on a eu le ministre Darcos, pour faire vite, quand on a eu le ministre Darcos au gouvernement, avec la réforme de 2008, ça a commencé par la suppression de ce que Sarkozy avait appelé le samedi matin, les 2 heures du samedi matin. Donc chez nous, c'était plutôt le mercredi, ici dans la région. Et ces 2 heures qu'on enlevait à tout le monde, finalement, on allait les donner d'une certaine façon, ou les faire subir, selon le regard qu'on porte, aux enfants en difficulté. Alors, pourquoi pas? Sauf que dans le même temps, le fait de reprendre ces enfants-là en dehors de l'école, en dehors du temps scolaire obligatoire pour tous, par les enseignants lambda qu'ils avaient toute l'année en classe, en même temps, ça permettait de supprimer les enseignants spécialisés, membres des RASED, des réseaux d'éducation spécialisés, qui, eux, apportent une aide, effectivement, aux enfants. Donc, ça a été le premier point, et puis ensuite, il y a eu beaucoup de choses dans la réforme qui étaient inacceptables, donc on a multiplié les raisons de désobéir.
Merci beaucoup, Ninon. Merci, Boris.
Merci à toi, Rosendo.
Est-ce que tu peux donner un autre point de contact, ton téléphone ou un...
Ah, tu veux que je donne mon numéro de téléphone?
Internet,
non, non, internet ou ton adresse internet pour que les gens puissent te contacter.
Du duo, peut-être, non?
J'ai donné une adresse mail sur laquelle
c'est mieux.
On peut me joindre, mais alors il faudrait peut-être aller sur le site parce que je vais vous donner l'adresse de Pichu Tilio. Justement, c'est elle qui est mon...
Comment tu l'appelles, Pichu Tilio?
Alors, Pichu et Tilio, ça veut dire parce qu'elle est faite en tilleul et elle est bien petite. Donc, c'est pichutilha@gmail.com. Je suis désolée pour le gmail.com. Mais comme ça arrive directement sur mon téléphone et okay. J'ai pas besoin d'aller chercher mes mails, c'est quand même pratique.
Merci encore. À bientôt.
Voilà, merci tout le monde. C'était donc les rendez-vous de Rosendo avec aujourd'hui Ninon. Vous pouvez, ça y est, retrouver le podcast sur cfmradio.fr.